Chapitre 7. Charleston, mercredi 17 décembre 1980. Le shérif Bobby Joe Gentry fut tout d'abord enchanté de constater qu'on le suivait. À sa connaissance, c'était la première fois que ça lui arrivait. Lui-même avait déjà filé bien des gens. Pas plus tard que la veille, il avait suivi Lasky, le psychiatre, l'avait regardé entrer par effraction dans la maison Fuller, avait attendu patiemment dans la Dodge de Linda May que Lasky et la petite Preston aient fini de dîner, puis avait passé une bonne partie de la nuit dans le quartier de St. Andrews à boire du café et à surveiller la maison de Nathalie Preston. La nuit s'était avérée singulièrement froide et décevante. Le matin, il était repassé devant la maison et avait vu que la Toyota du psychiatre était toujours garée dans l'allée. Quel rapport y avait-il entre ces deux-là? Lasky avait fait une impression bizarre à Gentry, et ce dès son premier coup de fil. Une impression qui s'était vite transformée en un picotement intuitif entre les omoplates que l'expérience lui avait appris à considérer comme un des meilleurs outils du flic consciencieux. Il avait donc filé Lasky la veille. Et aujourd'hui, c'était lui, le shérif Bobby Joe Gentry, du comté de Charleston, qu'on avait pris en filature. Tout d'abord, il eut du mal à le croire. Il s'était levé à 6 heures du matin, comme d'habitude, fatigué par le manque de sommeil et l'abus de caféine. Il était allé faire un tour à St. Andrews pour vérifier que Lasky avait bien passé le reste de la nuit dans la maison Preston. Puis il avait mangé un beignet chez Sarah Dixon, sur Rivers Avenue, et s'était ensuite rendu à Hampton Park pour aller interroger une certaine Mrs. Llewellyn. Le mari de cette dernière avait quitté la ville 4 jours plus tôt, le jour des meurtres de Mansard House, et il était mort dans un accident de la route le dimanche près d'Atlanta. Lorsqu'un policier géorgien avait appelé Mrs. Llewellyn pour lui apprendre qu'elle était veuve et que son mari avait percuté un pilier de pont à 130 km/h sur la rocade de Lee 285, elle lui avait posé la question suivante. « Que diable Arthur faisait-il à Atlanta ?» Il était sorti hier soir pour aller acheter le journal et un cigare. C'était une bonne question, avait pensé Gentry. Elle était toujours sans réponse lorsqu'il sortit de la maison Llewellyn à 9 heures, après avoir interrogé la veuve pendant une demi-heure. Ce fut à ce moment-là qu'il remarqua la Plymouth verte, garée un peu plus loin, à l'ombre des arbres immenses plantés le long du trottoir. Il avait déjà remarqué cette Plymouth en sortant du parking du restaurant moins d'une heure plus tôt. Il n'y avait prêté attention que parce qu'elle était immatriculée dans le Maryland. Gentry savait d'expérience que les flics étaient obsédés par ce genre de détails anodins, la plupart du temps totalement inutiles. En se glissant au volant de sa voiture de patrouille, il régla le rétroviseur pour mieux observer la Plymouth. C'était bien la même voiture. Le soleil se reflétait sur son pare-brise, et il était impossible de voir si elle était occupée. Gentry haussa les épaules et démarra, tournant à gauche au premier carrefour. La Plymouth quitta sa place juste avant que la voiture de Gentry ne soit hors de vue. Celui-ci tourna de nouveau à gauche et prit la direction du sud, ne sachant s'il devait retourner à St. Andrews ou aller remplir des paperasses à l'hôtel du comté. Il remarqua que la conduite intérieure verte restait à 2 voitures de distance de lui. Gentry roulait lentement. Il tapotait le volant de ses grosses mains rouges, tout en sifflotant doucement un air de country. Il écouta d'une oreille distraite les messages transmis par la radio et s'interrogea sur les raisons susceptibles de pousser quelqu'un à le filer. Il n'en trouva guère. Si l'on exceptait quelques voyous qu'il avait mis derrière les barreaux ces 2 dernières années, personne n'avait de compte à régler avec Bobby Joe Gentry, et il ne voyait pas qui irait perdre son temps à le suivre dans ses vagabondages quotidiens. Il se demanda s'il n'avait pas peur de son ombre. Il y avait plus d'une Plymouth verte à Charleston. « Avec une plaque du Maryland ?» ricana la partie la plus méfiante de son esprit de flic. Gentry décida de prendre le chemin des écoliers pour regagner son bureau. Il obliqua à gauche pour s'engager dans Cannon Street. La Plymouth le suivit à 3 voitures de distance. s'il ne s'était pas attendu à la voir, il n'aurait jamais remarqué sa présence. Seule la relative tranquillité de la rue où vivait Mrs. Llewellyn lui avait permis de repérer son suiveur. Il prit la bretelle d'accès à l'Interstate 26, roula un peu moins de 2 kilomètres en direction du nord, puis quitta l'autoroute, empruntant les petites rues pour rejoindre Meeting Street. La Plymouth ne quitta pas son rétroviseur une seule seconde, s'abritant derrière d'autres véhicules quand c'était possible, demeurant à une distance respectable quand la chaussée était déserte. « Tiens, 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 » fit Gentry. Il prit la direction de Charleston Heights et passa devant la base navale. Les masses grises des navires étaient visibles derrière l'enchevêtrement des grues. Il tourna à gauche, remonta Dorchester Road et rejoignit l'E26 en direction du sud cette fois-ci. La Plymouth avait disparu. Il était prêt à sortir de l'autoroute, pensant qu'il regardait trop de séries policières à la télé, lorsqu'un semi-remorque changea de file 800 mètres derrière lui, lui permettant d'entrevoir un capot vert. Gentry quitta l'autoroute à la sortie 221 et se retrouva dans les rues étroites avoisinant l'hôtel du comté. Il s'était mis à bruiner. Le conducteur de la Plymouth avait actionné ses essuie-glaces à la même seconde que Gentry. Le shérif chercha une loi que son poursuivant soit susceptible d'avoir violée. Il n'en trouva aucune. « Bien, » pensa-t-il, « comment puis-je arriver à le semer ?» Il songea à toutes les scènes de poursuite qu'il avait vues au cinéma. « Non, merci. » Il tenta de se rappeler une ruse figurant dans un des nombreux romans d'espionnage qu'il avait lus, mais n'arriva à se souvenir que d'un brusque changement de rame dans le métro moscovite. Merci bien. Le fait d'être au volant d'une voiture de patrouille, clairement identifiée comme appartenant au shérif du comté de Charleston, ne faisait qu'aggraver la situation. Gentry savait qu'il lui suffisait de lancer un appel radio et de faire le tour du pâté de maison, et dès qu'il reviendrait à ce carrefour, la moitié de ses hommes serait là pour réceptionner le pigeon. Et ensuite, il s'imagina en face du juge Trentor, accusé de persécuter un touriste cherchant le ferry conduisant à Fort Sumter et ayant décidé de suivre le shérif de la ville pour y parvenir. La solution la plus intelligente, il le savait, était celle de l'attente. Que ce type continue de le suivre pendant des jours, des semaines, des années, jusqu'à ce que Gentry comprenne à quel jeu il jouait. Le conducteur, ou la conductrice, de la Plymouth, était peut-être un huissier, un journaliste, un témoin de Jéhovah têtu, ou un membre de la police des polices récemment fondée par le gouverneur. La solution la plus intelligente, Gentry en était absolument certain, était de retourner à son bureau, de ne plus penser à ça et de laisser la situation se décanter toute seule. « Et puis merde !» dit-il. La patience n'était pas son fort. Il fit faire une tête à queue à sa voiture sur la chaussée mouillée, brancha son gyrophare et sa sirène et fonça vers la Plymouth qui venait de s'engager dans l'étroite rue en sens unique. Il déboucla la gaine du holster, où était glissé son pistolet non réglementaire, et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour vérifier que sa matraque était bien à sa place sur la banquette arrière. Puis il accéléra, donnant du klaxon pour accroître encore le vacarme produit par son véhicule. La calandre de la Plymouth eut l'air toute surprise. Gentry vit qu'il n'y avait qu'un homme dans la voiture. Celle-ci fit une embardée sur sa droite. Gentry donna un coup de volant à gauche pour lui bloquer le passage. La Plymouth feignit d'obliquer sur sa gauche, puis monta sur le trottoir de droite, tentant de se faufiler entre les immeubles et la voiture du shérif. Gentry donna un violent coup de volant à gauche, décolla de son siège en montant sur le trottoir et se prépara à la collision. La Plymouth dérapa, accrocha une rangée de poubelles métalliques avec son pare-choc arrière et emboutit un poteau téléphonique. Gentry immobilisa sa voiture devant le radiateur fumant de la conduite intérieure, de façon à lui bloquer le passage si le conducteur tentait de s'enfuir. Puis il descendit, acheva d'ouvrir son holster et saisit sa matraque de la main gauche. « Pourrais-je voir votre permis de conduire et votre attestation d'assurance, monsieur ?» demanda-t-il. Un visage pâle et émacié le regardait fixement. Le choc avait été tout juste assez violent pour tordre la portière avant gauche et secouer le conducteur. Celui-ci avait un front haut et des cheveux noirs. Gentry lui donna une quarantaine d'années. Il était vêtu d'un costume foncé, d'une chemise blanche et d'une cravate sombre et étroite qui semblait dater de l'époque Kennedy. Gentry observa les mouvements de l'homme pendant qu'il cherchait son portefeuille. « Voulez-vous sortir votre permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur ?» L'homme s'immobilisa, scia, puis fit mine de s'exécuter. Gentry s'avança vivement et ouvrit la portière de la main gauche, laissant la lanière de sa matraque pendre à son poignet. Sa main droite était posée sur la crosse de son Roger Blackhawk. « Monsieur, veuillez descendre de...
Merde !»
Le conducteur de la Plymouth se retourna, son pistolet automatique braqué sur le visage de Gentry. Les 120 kilos du shérif s'engouffrèrent dans la voiture quand il plongea sur le poignet de son adversaire. Il eut deux coups de feu. La première balle passa en sifflant près de l'oreille du shérif et traversa le toit. La seconde transforma le pare-brise de la Plymouth en toile d'araignée poudreuse. Puis Gentry enserra le poignet de l'homme de ses deux mains, et tous deux se retrouvèrent couchés sur la banquette, comme des adolescents en train de se ploter dans un drive-in. Ils suffoquaient et haletaient tous les deux. La matraque de Gentry s'était coincée dans le volant, et la Plymouth beuglait comme un cerf blessé. Le conducteur tenta de labourer les joues du shérif à coups de griffe. Gentry abaissa sa tête massive et lui asséna un coup de boule. Deux. Entendit le troisième lui couper le souffle. L'automatique dégringola de la main du type, rebondit sur le levier de vitesse et la jambe de Gentry et alla atterrir bruyamment sur la chaussée. Redoutant les armes qui tombent, comme tout bon chasseur qui se respecte, Gentry s'attendit à entendre partir l'automatique et à recevoir la moitié du chargeur dans le dos, mais rien de tel ne se produisit. « Amène-toi par ici !» dit Gentry, et il se redressa, entraînant dans le même mouvement le conducteur hors de la voiture. Il l'avait empoigné au collet de la main droite, et après avoir vérifié que l'automatique était à moitié sous la voiture, il jeta l'homme sur le sol à plus de 2 mètres de distance. Lorsqu'il réussit à se relever, Gentry avait dégainé le rugeur Black Hawk que son oncle lui avait offert le jour où il avait pris sa retraite. L'arme avait une consistance rassurante dans sa main.
« Plus un geste ! On ne bouge pas d'un poil !»
ordonna Gentry. Une douzaine de curieux étaient sortis des boutiques et des bureaux pour observer la scène. Gentry vérifia qu'ils étaient tous hors de portée de son arme et que seul un mur de briques se trouvait derrière le conducteur. Il eut une violente nausée en se rendant compte qu'il était prêt à abattre ce pauvre type. Gentry n'avait jamais tiré sur un être humain. Au lieu d'empoigner le revolver à deux mains et d'écarter les jambes comme on le lui avait appris, il se redressa de toute sa taille, pointant le canon de son arme vers le ciel. La pluie était une brume caressante sur son visage rougeau.
« La bagarre est finie » haleta-t-il. « Détendez-vous une minute, mon vieux, et discutons un peu de tout ça. »
Il y avait un couteau dans la main du conducteur lorsqu'elle jaillit de sa poche. La lame sortit du manche avec un déclic parfaitement audible. L'homme se mit en position de combat, en équilibre sur la pointe des pieds, les doigts de son autre main bien écartés. Le shérif fut navré de constater qu'il tenait son couteau parfaitement. Dangereusement, le pouce posé sur le manche à la naissance de la lame. Le morceau d'acier, long d'une douzaine de centimètres, décrivait déjà des arcs courts et fluides. D'un coup de pied, Gentry propulsa l'automatique sous la Plymouth, puis il recula de 3 pas.
« Allons, mon vieux !» dit Gentry. « Ne faites pas de bêtises, rangez ce couteau !»
Il ne sous-estimait nullement la vitesse avec laquelle l'homme pourrait franchir les 5 mètres qui les séparaient. Et il savait qu'à une telle distance, un couteau pouvait être aussi fatal qu'une balle. Mais il se rappelait aussi les trous creusés par le Black Hawk dans une cible noire placée à 40 pas. Il ne voulait pas imaginer les dégâts que causeraient les balles de 357 à cette distance. « Baissez votre arme, » dit Gentry. Sa voix était douce et unie, ne contenait aucune menace, n'admettait aucune discussion. « Réfléchissons quelques instants et parlons de tout ça. » L'homme n'avait ni parlé, ni émis d'autres sons que 2 ou 3 grognements depuis que Gentry s'était approché de la Plymouth. À présent, un étrange sifflement sortait de sa bouche crispée, pareil à celui d'une bouilloire en train de refroidir. Il commença à lever le couteau à la verticale.
« Stop !»
Gentry abaissa son pistolet, visant le centre de la cravate de l'homme. Si le couteau se mettait en position de lancer, Gentry serait obligé de tirer. Son doigt était tellement crispé sur la détente que le percuteur était prêt à se lever. Gentry vit alors quelque chose qui lui bloqua douloureusement le cœur. Le visage de l'homme sembla frémir, trembler, ou plutôt se liquéfier, comme si un masque de caoutchouc mal ajusté glissait pour révéler ses véritables traits. Ses yeux s'écarquillèrent, comme pour exprimer la surprise ou la terreur, puis ils roulèrent, tels des petites bêtes prises de panique. L'espace d'un instant, Gentry vit une autre personnalité émerger sur ce visage mince, une expression d'horreur et de confusion apparaître dans ses yeux captifs, puis les muscles du visage et du cou se raidirent, comme si le masque venait de se rajuster. Le couteau se leva jusqu'à toucher le menton de l'homme, assez haut pour être correctement lancé.
« Hey !»
cria Gentry. Il relâcha la pression de son doigt sur la détente. Le conducteur inséra le couteau dans sa propre gorge. Il ne se poignarda pas. Il ne se taillada pas. Il inséra les 12 centimètres d'acier comme un chirurgien pratiquant une incision ou une ménagère perçant soigneusement une pastèque avant de la couper en tranches. Puis, avec une force et une lenteur délibérées, il fit aller la lame de droite à gauche sous ses mâchoires.
« Tout Jésus !»
murmura Gentry. Un des spectateurs poussa un cri. Le sang coula sur la chemise blanche de l'homme, comme si un ballon plein de peinture rouge venait d'exploser. L'homme dégagea sa lame et resta immobile pendant une bonne dizaine de secondes, les jambes écartées, le corps rigide, le visage sans expression, pendant qu'une cascade de sang inondait son torse et coulait à grosses gouttes sur le trottoir mouillé. Puis il s'effondra sur le dos, les jambes agitées de spasmes.
« Restez à l'écart, bon sang !»
hurla Gentry en direction des badauds, et il se précipita vers le mourant. Il écrasa le poignet droit de l'homme sous sa botte et dégagea le couteau d'un coup de matraque. La tête du conducteur était rejetée en arrière, et la plaie écarlate de sa gorge béait comme le sourire obscène d'un requin. Gentry aperçut des cartilages déchiquetés et des lambeaux de tissu gris avant que le sang ne bouillonne à nouveau. La poitrine de l'homme commença à s'élever et à s'abaisser lorsque ses poumons se remplirent. Gentry retourna près de sa voiture et appela une ambulance. Puis il ordonna une nouvelle fois à la foule de s'écarter et récupéra l'automatique sous la Plymouth à l'aide de sa matraque. C'était un Browning 9 mm muni d'un chargeur supplémentaire qui l'alourdissait considérablement. Il trouva le cran de sûreté, le bloqua, passa l'arme à son ceinturon et alla s'agenouiller près du mourant. Le conducteur avait roulé sur son flanc droit, les genoux relevés, les bras autour du torse, les poings serrés. Son sang s'étalait en une flaque d'un bon mètre de large et continuait de couler à chaque battement de cœur. Gentry s'agenouilla dedans et essaya de refermer la blessure avec ses mains nues, mais la plaie était trop large et trop irrégulière. Sa chemise fut trempée de sang en moins de 5 secondes. Les yeux de l'homme avaient pris une nuance vitreuse que Gentry avait déjà vue sur nombre de cadavres. La respiration entrecoupée et le bouillonnement cessèrent au moment où la sirène d'une ambulance se faisait entendre au loin. Gentry recula, se redressa sur les genoux et s'essuya les mains sur les cuisses. Le portefeuille du conducteur avait atterri sur la chaussée durant leur brève lutte, et Gentry le saisit avant qu'il soit maculé de sang. Ignorant la procédure en vigueur dans un tel cas, il l'ouvrit et passa son contenu en revue. Il s'y trouvait $900 en liquide, une photo en noir et blanc du shérif Bobby Joe Gentry, et rien d'autre. Rien. Ni permis de conduire, ni carte de crédit, ni photo de famille, ni carte de sécurité sociale, ni carte de visite, ni vieille facture. Rien.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Murmura Gentry. La pluie avait cessé de tomber. Le corps du conducteur gisait sur le macadam. Son mince visage était si blanc qu'il semblait de cire. Gentry secoua la tête et regarda sans les voir les badauds et les policiers et ambulanciers qui approchaient.
« Quelqu'un serait-il assez aimable pour me dire ce qui se passe ici ? »
hurla-t-il. Personne ne lui répondit.